N'aurais-je pas dû lui dire la vérité ? Se demandai-je à feu au sortir de cette conversation, tout en se promenant dans le jardin de l'hôtel, où verdoyait entre les palmiers cette végétation exotique, agave, cactus, yucca, qui donne à ce coin de la côte provençale une physionomie africaine. Le soleil, déjà haut, baignait de lumière les rigides feuillages qui contrastaient avec la souple délicatesse des fleurs épanouies dans le gazon. Sombres pensées veloutées, odorants et pâles narcisses, larges violettes. Mais l'avocat n'avait plus l'âme ouverte à ce charme du matin méridional, si enivrant pour un Parisien arrivé de la veille comme lui. Après avoir cédé au scrupule de recommencer le geste inexorable de jadis, il se débattait à présent contre le scrupule contraire, celui d'avoir ménagé sans doute un coquin. Les chances pour que Pierre Stéphane en fût devenu en lui appartenaient si nombreuses. Ce métier que l'avocat venait de qualifier d'excentrique ne représentait-il pas un reniement définitif de cette classe bourgeoise à laquelle il appartenait par toutes les fibres, par suite à un abandon probable de ses vertus, dont la première est la probité? Mais oui, le voleur des livres était celui d'un bijou. Mais comment la conscience du fils d'un Auguste Meurtin, hérédiquement si faible aux tentations, le premier vol le prouvait trop, ne se serait-elle pas pervertie dans ses caravansérails de saison, avec leur atmosphère de luxe et d'abus? Sa fuite, aussitôt aperçue, le témoin de sa lointaine faute, quel aveu! Que cette première défaillance fût révélée, un soupçon s'éveillait aussitôt, qui pour son ancien patron se changeait à cette minute en certitude. Et ces deux employés, se disait-il encore, que le directeur est tout près d'incriminer, vais-je permettre qu'ils subissent cette épreuve d'une accusation si pénible à des inférieurs? Il en était là de ses réflexions quand il aperçut Madame Favie et sa fille qui se promenaient elles aussi au bon du jour pour parler le langage du cru. Leur allure lente dénonçait la maladie de la mère qui devait s'arrêter de temps à autre, et Jaffeux la voyait caresser au soleil son visage amaigri et souffrant. Une involontaire association d'idées lui rappela de nouveau Madame Bertin et ses propres impressions quand il avait appris sa mort. La fille cheminait à côté de la mère, la soutenant du bras et réglant son pas sur celui de la cardiaque. Mais, tandis que celle-ci souriait à la gaie lumière, autour des tempes jeunes de René et de son front sans rides, de ses joues pleines flottait un halo de mélancolie. Elle regardait devant elle, distraitement, comme indifférente, visiblement absorbée dans une pensée que Jaffeux interpréta dans le même sens que la veille. « Il est parti, elle le sait, et voilà pourquoi elle est triste. » Le besoin d'y voir plus clair dans cette énigme le fit s'approcher des deux femmes, et après quelques phrases banales sur le rayonnement de la matinée, la douceur du climat, la beauté du paysage, cette mer bleue, ces îles violettes, ces sombres montagnes boisées, il demanda « Oh, je n'ai fait que penser à ces danses hier, je les connais si peu. Cela vous ennuierait-il, mademoiselle, que je vous vois prendre votre leçon ?»« Vous touchez à un point sensible, dit la mère, elle n'en prendra plus, son professeur est parti. » « Oh, et qu'est-il arrivé ? » insista-t-il. « Ce malaise d'hier ? » ?»« Il a eu sans doute quelques difficultés avec le directeur à ce propos, » interrompit Madame Favie, tandis que sa fille continuait à se taire. « Si c'était grave, il serait à la chambre, au lieu qu'il a décampé dardard. Nous n'avons même pas réglé ses leçons. » « On n'a jamais été très bien ici pour lui, » dit René. « Il suffit de le voir, ce directeur, il est si ordinaire. Monsieur Néria, lui, c'est un monsieur. » Oh, sans cela, reprit la mère, tu penses bien que je ne t'aurais pas laissé prendre des leçons avec lui. Et se tournant vers l'avocat, c'est qu'avec ces professeurs de danse moderne, il faut se méfier. Il y en a d'incroyables. Une de nos amies en accepte un pour sa fille qui dit à cet enfant, un ange, monsieur Jaffeux, de la première leçon. Rappelez-vous ce principe, mademoiselle, les jambes de la danseuse et celles du cavalier ne doivent pas cesser de se toucher. Quelle grossièreté, n'est-ce pas? Ah, fit René. Monsieur Néria, lui, nous tenait un autre langage. Vous vous rappelez, maman, ce qu'il disait sur le tango? Qu'à entendre ces airs espagnols, on devient musique de la tête aux pieds. Comprise ainsi la danse à tant de poésie. Oh, quand j'ai commencé à prendre des leçons, j'ai tout de suite aimé à danser pour le mouvement, comme le tennis, comme la bicyclette. Avec lui, j'ai appris à sentir qu'il n'y a pas une danse, mais des danses, chacune avec son charme particulier, celui de son rythme. L'une m'évoque en ce rythme doux et langoureux un paysage d'Orient. L'autre me fait redevenir une petite fille par les paroles enfantines dont elle s'accompagne et sa mélodie simpliste. Oh, je serai toujours reconnaissante à monsieur Nerial de m'avoir expliqué tout cela et si finement. Je dois dire, interjeta la mère, qu'il m'a bien étonné chaque fois que nous avons causé ensemble. Son joli français d'abord, son instruction, ses manières, dans un pareil métier. Oh, c'est un orphelin, fit René. Il nous l'a dit un jour. Quand ses parents sont morts, il s'est trouvé sans fortune ou presque. Il était à Londres où il cherchait une position. Il avait toujours eu le goût du sport. Un Anglais qu'il avait connu à l'ambulance, car il a été blessé comme soldat, vous avez remarqué son ruban, était danseur dans un hôtel. Alors il tombe malade, il demande à monsieur Nerial de le remplacer. Celui-ci accepte, le métier l'amuse. Pour gagner sa vie, il continue. Voilà ce qu'il nous a raconté, à mon frère et à moi. Et combien peut-il être payé? Interrogea l'avocat. Oh, mais très cher, répliqua madame Favy. Pour les 5 premières leçons, 300 francs, il n'accepte jamais d'en donner moins de 5. Ensuite, à partir de la 6e, c'est 50 francs la leçon. Or, il a jusqu'à 10 et 12 élèves dans la matinée et l'après-midi. Et remarquez, des frais de tout logement, nourriture, service. Calculez, mais c'est un traitement de général. Et si désintéressé, reprit la jeune fille. Quand il s'agit d'une fête de charité, pas de peine qu'il ne se donne et n'accepte aucune rémunération. Je continue à être intrigué par ce nom de Nerial, fis Jaffeux. Oh, un nom de guerre, sans doute, comme tant d'autres, fit René. Et son vrai nom? Nous ne lui avons pas demandé, répondit la mère. Nous aurions craint de le froisser. D'après quelques mots qu'il a dit encore à Gilbert, j'ai cru comprendre que son père était dans les affaires. Il l'aura ruiné. Oh, c'est une supposition que vous faites, maman, dit la jeune fille. Je croirais bien plutôt que c'est lui qui aura sacrifié sa fortune pour régler les dettes des siens. En tout cas, il ne s'est jamais plaint d'eux. Il est trop délicat. L'entretien fut interrompu par une des clientes de l'hôtel que les dames Favy connaissaient et à qui elles présentèrent leurs compagnons. D'autres propos s'échangèrent, au cours desquels le nom de Lady Hadraham fut prononcé sans aucune allusion à la barrette disparue, preuve que la victime du vol observait strictement, elle aussi, la consigne de discrétion que le directeur considérait comme nécessaire au bon renom du Med Palace. Je ne me trompais pas, se disait Jaffeux après s'être séparé du groupe. Cette petite s'est laissée prendre le cœur. Son père a voulu qu'elle fût élevée à l'ancienne manière, et c'est bien une jeune fille de mon temps, une de ces enfants si préservées, si surveillées, que la vie n'a rien touché en elle, rien flétri. Mais, ignorant tout des réalités du monde, elles sont sans défense contre leurs illusions, et pour peu qu'elles aient de l'imagination follement romanesque comme celle-ci, elle est amoureuse de Pierre Stéphane, si naïvement. Sa simplicité pour en parler à sa mère prouve son innocence. C'est à se demander si la brutale éducation d'aujourd'hui n'est pas dans l'oreille en traitant les filles comme des garçons. Alors oui, elles ont de la défense, mais un cœur de vierge développé à 20 ans, comme c'est triste, et que je préfère cette charmante Renée. Seulement, il faut la guérir, elle ne sait pas elle-même ce qu'elle sent. Hélas, elle ne le saura rien qu'à son chagrin quand elle apprendra qu'elle s'est intéressée à un rat d'hôtel de la pire espèce, si vraiment Pierre Stéphane est le voleur. Et qu'il le soit, mais tout le montre. Bon, le mieux serait qu'il fût arrêté immédiatement, d'abord pour les gens que le directeur soupçonne, et surtout pour cette pauvre et déraisonnable enfant. Pas de scandale. Ce malheureux disparaît, elle pleure, puis comme elle a de l'honneur, ses larmes lui font honte, elle n'entend plus parler de ce drôle, car en tout cas c'est un drôle d'avoir joué avec elle ainsi. Elle l'oublie, ce grand amour n'aura été qu'un rêve. Mon devoir n'est pas douteux. Sachant ce que je sais sur Bertin, je dois ce renseignement à la police, il faut que j'aille chez le commissaire. Maintenant, la dénonciation devenait en effet le devoir absolu, mais combien pénible, à cause du malaise de conscience, que le souvenir de son ancienne dureté continuait de laisser à Jaffeux. Il recula cette démarche, jugée pourtant obligatoire, jusqu'au lendemain, très tard dans la matinée. Il n'était pas sorti de sa chambre de peur de rencontrer Madame Favy. Il se forçait à espérer que Lady Adraham s'était trompée, que le bijou simplement égaré se retrouverait, ou encore que Pierre Stéphane, malgré tant d'apparence, n'était pas le voleur et que celui-ci se découvrirait. Il savait trop bien pourtant que ce n'était là que de pauvres prétextes pour ne pas agir. Bon, je suis trop lâche, finit-il par se dire. Et comme 11 coups sonnaient à la pendule, allez, aussitôt après le déjeuner, je serai chez le commissaire, je m'en donne la parole. L'avocat ne se rappelait pas avoir une seule fois dans sa vie manqué à un engagement pris ainsi avec lui-même, et sa montre marquait à peine 2 heures quand il se présenta dans le bureau du magistrat. Sa carte remise, il fut aussitôt reçu par un jeune homme, maigre et très brun, qui se confondait en protestations avec une gêne dont son visiteur eut vite l'explication. Que désirez-vous de moi, mon cher maître? Vous devinez combien je désirais pouvoir être utile à une des gloires du barreau de Paris. Mais sur un hochement de tête de l'avocat. Mais oui, j'étais tout petit débutant et des saucets quand je vous ai entendu plaider dans cette affaire des sucreries d'Aulnat pour M. Calvière. Seulement, il faut que je vous avertisse, je ne suis encore qu'un pauvre inspecteur. Le commissaire est malade, son secrétaire aussi. Alors, on m'a chargé du remplacement la semaine dernière et je connais très mal le pays. Draguignan, mon poste d'attache, est loin, et plus loin encore, Ajaccio, mon pays. Mais on est corse, on se débrouille. Le pauvre garçon, pensait Jaffeux, a peur, s'il ne me contente pas, que je le desserve à Paris auprès de quelque chef. Comme on a raison, quand on est français, de n'être pas fonctionnaire. Et tout haut. Je vous remercie de votre obligeance, monsieur l'inspecteur. Oh, je n'ai pas de service à vous demander. Je viens vous en rendre un, peut-être. Je vous apporte un renseignement de nature à vous aider dans une recherche assez délicate. Il s'agit d'un vol commis au Med Palace. Ah, le directeur vous l'a signalé, m'a-t-il dit, au détriment d'une dame anglaise. Ah oui, il m'a signalé, en effet, mon cher maître. Le visage de l'apprenti commissaire, d'une mobilité si méridionale tout à l'heure, se tendait dans une expression tout officielle. Ses traits accentués s'étaient comme figés, mais ses yeux noirs, à travers leurs paupières mi-fermées, dardaient un regard d'une malice singulière, celui d'un inférieur qui se prépare à étonner un supérieur, et il écoutait Jaffeux raconter l'histoire de son ancien secrétaire, la disparition des 5 volumes, l'effronterie du coupable, son éclipse soudaine ensuite, et comment il venait à sa stupeur de le retrouver l'avant-veille, danseur mondain dans cet hôtel. J'ai pensé, conclut-il, que cette indélicatesse d'il y a 5 ans pouvait, dans la circonstance présente, constituer une présomption de culpabilité. Eh, vous avez bien pensé, mon cher maître, dit l'inspecteur. Décidément, un grand avocat est le meilleur des juges d'instruction, et la preuve. Tout en parlant, il ouvrait le tiroir de son bureau pour en extraire une boîte en carton, et de cette boîte un bijou dont les diamants jetèrent un feu. Une grosse émeraude brillait au centre, qui ne permettait pas le doute. Mais oui, continua-t-il, amusé et flatté par le visible étonnement de son interlocuteur. C'est la barrette volée à Lady Ardram, et volée par qui? Par le pseudo Nerial. Et qui l'a rapportée ici ce matin? Ah, le voleur en personne. Ce que ça m'a fait plaisir, entre nous j'étais perplexe. C'est le premier délit grave signalé depuis mon arrivée. Allez, j'ai échoué. Oh, je songeais qu'à cela depuis 4 jours. Le directeur m'avait bien indiqué 2 pistes. Moi, j'entrevoyais une autre, et avant de vous avoir écouté, il me restait l'idée que je n'étais pas absolument trompé. Vous jugerez. Donc ce matin à 10 heures, le pseudo Nerial me fait passer sa carte comme vous tout à l'heure. Je le reçois. Il me tire l'objet de sa poche en me disant: Monsieur le commissaire, je suis chargé de vous remettre ce bijou qui appartient à une dame anglaise logée au Mayfair Palace. Vous avez dû être averti. Pensez, si j'étais heureux et intrigué à la fois. Alors je l'interroge. Voulez-vous m'expliquer, monsieur, comment cette barrette se trouve entre vos mains? Et lui. Je vous demande la permission de ne pas vous répondre, monsieur le commissaire. Mais il faut me répondre, monsieur, insistai-je. Je vous ai dit, cher maître, que j'avais mon idée. Un garçon de 30 ans comme celui-là, joli homme et danseur professionnel dans un palace, c'est un coq dans un poulailler. Une hypothèse s'imposait. Une de ses maîtresses avait poissé le bijou. Elle n'avait pas pu le vendre, elle s'était confessée à lui, à moins qu'il ne fût complice. En tout cas, toi, mon ami, me dis-je, puisque tu t'es chargé de la restitution, tu vas te mettre à table. Pardon de mon argot, vous êtes un peu de la partie, cher maître. Vous avez compris que j'allais essayer de lui faire manger le morceau. Je commence donc un petit discours dont vous devinez la teneur. C'est élémentaire, je lui pose ce dilemme. Me nommer immédiatement la personne à laquelle il tenait cette broche, et alors immunité complète, sinon une enquête judiciaire. Et je conclus, en face d'un coupable qui avoue et qui restitue, la justice peut pardonner et passer outre. Dans le cas présent, et devant le silence du coupable, il reste un délit dont elle se doit de rechercher l'auteur. Mon raisonnement était très simple. Qu'il n'eût pas bonnement rapporté la broche comme trouvée par hasard, cette imprudence apparente dénonçait un calcul. Mon chef, à la Sûreté Générale, un limier de premier ordre, nous répétait: Toutes les démarches des délinquants sont compliquées parce qu'ils ont trop pensé aux dangers possibles. Le directeur du Med Palace m'avait transmis un témoignage indiscutable, celui de la propriétaire de la broche qui se rappelait très nettement l'avoir laissée sur sa table à toilette. Le Nérial connaissait ce petit fait, évidemment. C'était la raison pour laquelle il n'avait point parlé de trouvailles. Mais le voleur aurait pu la perdre ou la jeter, cette broche, et lui, Nérial, l'avoir ramassée. Seulement, ce système-là comportait un risque, celui d'entraîner un interrogatoire qu'il voulait éviter, qu'il eût évité, si je n'avais pas eu, moi aussi, mon idée de derrière la tête. J'y ai fait allusion déjà, et je vous avouerai que je cédais à l'amour propre professionnel en insistant. Voyons, dites-moi, toute la vérité, toute, et d'abord ce nom du coupable. Je m'engage, puisqu'aucune plainte n'a été portée officiellement, à ne pas poursuivre l'affaire et à vous garder le secret. Même vis-à-vis de M. Prandoni, même vis-à-vis de lui. Eh bien, monsieur le commissaire, finit-il par répondre, c'est moi, l'auteur du vol. Alors, pas un mot de plus pour atténuer sa faute, ni pour en préciser les circonstances. Qu'en avais-je besoin d'ailleurs? Ce que j'ai pu lui dire à mon tour, vous le devinez, mes félicitations pour sa franchise, l'assurance réitérée que je tiendrai ma promesse d'indulgence plénière et de secret. Je ne crois pas y manquer en vous parlant à vous, comme je fais, puisque vous savez sur lui ce que vous savez et que je suis sûr de votre discrétion. Enfin, pour achever, je lui ai servi le sermon de rigueur. Il écoutait dans une attitude que je m'explique moins que jamais après ce que vous venez de m'apprendre. Émissaire d'un voleur, comme il l'avait déclaré d'abord, ou voleur lui-même, comme il le déclarait maintenant, il se trouvait associé à une très malpropre histoire. Oh, je renonce à vous décrire l'air de hauteur répandu sur toute sa personne. Ah, je le reconnais bien là, dit Jaffeux. Il n'a pas changé. Il se tenait ainsi devant moi quand je l'ai mis en face de la vilenie. C'est même exaspéré par cette arrogance que je lui ai parlé avec une sévérité que je regrettais jusqu'à notre conversation d'à présent. Je suis plus naïf que vous, mon cher maître, reprit l'inspecteur. En le voyant faro, comme disent les gens d'ici, je lui ai fait le crédit de penser, il se dévoue à quelqu'un d'autre, et il en est fier. J'avais à l'œil, avant sa démarche, une certaine Mademoiselle Morange, la danseuse du palace, qui travaille avec lui. Tout un roman, je vous le répète, s'était bâti dans mon esprit. Cette fille volant la bague, prenant peur, se confiant à son camarade, son amant sans doute, et celui-ci s'accusant pour empêcher les recherches qui risquaient de mettre à jour la vérité. Eh bien, vous venez de la jeter par terre, ma conclusion. Du moment qu'il a cette vilaine histoire dans son passé, le jeune homme, mais il échange. Il vous a reconnu et c'est lui qui a pris peur. Il s'est dit, Monsieur Jaffeux sera ce vol commis dans l'hôtel et que l'on cherche le voleur. Il croira de son devoir d'apprendre à la police qui je suis et l'histoire des livres. Remarquez, cher maître, c'est précisément ce que vous avez fait. On me questionnera, on m'arrêtera, rapportons le bijou. Cette restitution coupera court à tout. La chose est claire maintenant. Contrairement à vous, je regrette un peu à présent que vous m'ayez renseigné de n'avoir pas été plus sévère. Et même, ce qui est promis est promis. D'ailleurs, c'est l'intérêt de l'hôtel, donc de la ville, qu'il n'y ait pas de scandale de cet ordre. Ce garçon a évidemment une nature de cambrioleur. Il n'en est pas à son second vol, croyez-le bien. Il continuera. Et se fera prendre ailleurs. Cet aveu par terreur de votre présence n'est pas une preuve de repentir. Je dirais volontiers tout au contraire. L'inspecteur a raison, songeait Jaffeux en s'éloignant d'hier maintenant dans la direction de son hôtel. Ce malheureux est un voleur né, c'est la filière. Le grand-père est un fastueux, mais il travaille. Il a un fils qui dépense, ne travaille plus, et le petit-fils est un escroc. Non, je n'ai pas eu trop tort autrefois de l'exécuter. Il regardait autour de lui pour exorciser ses tristes impressions. Des haies de roses bordaient le chemin. Sur la pente de la colline, l'or des mimosas alternait avec la verdure grise des pins d'Alep, détachés délicatement sur le bleu du ciel. « Que la nature est belle !» se disait-il encore, « et que la vie humaine est laide !» Il y a pourtant de nobles êtres, ainsi cette pauvre Madame Bertin, et des âmes pures, ainsi cette petite Renée. Cette fois, du moins, les choses s'arrangent au mieux. Pierre Stéphane va disparaître. Cet enfant ne le reverra plus. Elle l'oubliera. Est-ce assez heureux que je sois descendu dans cet hôtel, aucun doute. Ce bandit a eu peur de moi, comme dit l'inspecteur. Sinon, il gardait le bijou. C'était un petit malheur, mais il continuait son entreprise de séduction. Et ça, c'était la catastrophe. Il arrivait au Med Palace parmi ses pensées, et tout de suite le seuil franchi, il avisa Madame Favy qui causait nerveusement avec le portier, une enveloppe à la main. « Vous ne connaissez pas du tout la personne qui m'a apporté cette lettre ?»« Non, madame. »« Mais vous dites que c'était un enfant. »« Oui, un petit garçon que j'ai vu une seconde. »« J'étais allé au téléphone, je reviens. »« Je l'aperçois qui pose la lettre sur le bureau et se sauve. »« Elle était à votre nom. » Je vous l'ai remise. Et ce n'est pas du papier de l'hôtel. Ah non, madame. Le concierge tâtait de ses grosses mains l'enveloppe que lui tendait Madame Favy. Oh, ce papier-ci est de fabrication française, et nous n'avons, nous, que du papier anglais. Que se passe-t-il? Demanda Jaffeux en s'approchant de Madame Favy, comme elle quittait le bureau. Vous avez reçu une mauvaise nouvelle? « Non, » dit-elle. Puis, comme saisie d'une idée subite, « Que pensez-vous d'une lettre anonyme ?»« Que c'est une infamie, madame, qu'il faut mépriser. En ma qualité de Parisien un peu en vue, j'en ai reçu quelques-unes. Je regarde le commencement, la fin, pas de signature, je déchire sans lire. « Mais vous êtes un homme, vous n'avez pas de nerfs. » C'est plus difficile à une femme, cette sagesse-là, surtout quand il s'agit de ce qu'elle aime le plus au monde. Et impulsivement, vous êtes discret, monsieur Jaffeux, et par profession et par caractère. Le colonel m'a souvent dit combien il vous estimait. Lisez cette ordure. Sa main tremblait en tirant de l'enveloppe à moitié fermée et pour le donner à l'avocat, un carton tapé à la machine. Son souffle court disait son émotion. Ses yeux brillaient d'un éclat de fièvre dans son visage consumé, où les taches des pommettes se faisaient plus rouges. Elle dut s'asseoir, tandis que Jaffeux lisait les lignes suivantes, où l'inégalité des lettres attestait la frappe hâtive de doigts novices. Madame Favy ferait bien de surveiller les tête-à-tête de sa fille avec M. Nerial, dit le beau lanceur, dans le jardin de l'hôtel. Il y a trop de fenêtres d'où l'on peut voir ce jeune et intéressant couple se promener sentimentalement. Ces rendez-vous ne sont pas pour faciliter le mariage, Mademoiselle Renée, pas plus que les parties de baccarat au casino, celui de M. Gilbert. La bonne entendeuse, salut. « Qu'en dites-vous » interrogea-t-elle quand Jaffeux lui rendit la lettre. « Bon, qu'il faut déchirer cet ignoble papier et n'en point tenir compte. »« Je ne peux pas, » répondit Madame Favy. Elle secoua la tête en répétant, « Mais je ne peux pas. » »« Puis, après une hésitation, ce qu'il y a d'affreux dans cette lettre, c'est la part de vérité qu'elle contient. Sur mon fils d'abord, qui a passé plusieurs de ses soirées au casino ces temps-ci. On me dit que la partie est très grosse, j'ai peur qu'il ne se soit allé à jouer. Et surtout, il y a ma fille. Ses promenades en tête-à-tête dans le parc, c'est une calomnie, j'en suis sûr. Seulement, voici quelque temps déjà que je crains qu'elle ne s'intéresse trop à ce monsieur Nerial. Mais puisqu'il est parti, objecta Jaffeux, c'est précisément depuis ce départ que René m'inquiète, reprit la mère. Quand vous en avez parlé hier, je vous ai dit que vous touchiez à un point sensible. Je plaisantais pour lui cacher ma défiance et l'observer pendant qu'elle vous répondrait. Vous n'avez pas remarqué son exaltation? Moi, si. Et une fois seul, un silence morne, un abattement, une mélancolie. À peine a-t-elle déjeuné et dîné. Elle couche dans la chambre à côté de la mienne, la porte ouverte. Elle n'a pas dormi. Et, montrant de nouveau la lettre, j'ai peur de ne pas les avoir assez surveillés, elle et son frère. René est si sensible et Gilbert si entraînable. Elle s'interrompit, déchirée par une subite canne de toux qui lui fit porter son mouchoir à sa bouche. Elle le retira, taché d'un peu de sang, et montrant sa poitrine et son dos. Oh, que j'ai mal quelquefois là et ici. Ah, je crois bien, mon pauvre ami, que je ne durerai plus très longtemps. Vous venez d'avoir une grosse émotion, dit Jaffeux, et vous êtes très nerveuse, tout simplement. Les vases fêlés sont ceux qui se cassent le moins vite. On les ménage. Vous m'enterrez, allez, moi et quelques autres. Elle haussa ses minces épaules et elle eut aux lèvres un de ces sourires avec lesquels les malades condamnés, et qui le savent, accueillent les mensonges consolateurs des médecins. Oh, je suis la femme d'un soldat, j'ai du courage. Pas avec mes enfants, hélas. Justement, vous trouverez cela bien étrange. C'est la sévérité toute militaire de notre intérieur qui explique ma faiblesse vis-à-vis d'eux, quand leur père n'est pas là. Le colonel, lui, ne connaît que la discipline, pour les autres comme pour lui-même. Les êtres jeunes, il ne s'en rend pas compte, car Dieu seul sait s'il aime sa fille et son fils, ont besoin de respirer une atmosphère plus libre. Il leur faut de la détente, une expansion de leur trop-plein de force, un peu de fantaisie. Quand les docteurs m'ont envoyé dans le midi, tout de suite, Renée est devenue une autre personne, allante, épanouie, heureuse. Lorsque je la vois ainsi, je me sens trop contente pour rien lui refuser de ce qu'elle désire. Elle a voulu prendre ses leçons de danse. Je dis oui, mais je les ai cachées à mon mari. J'ai presque honte à vous l'avouer. Il est venu passer 24 heures ici, nous lui en avons pas parlé. J'en suis bien puni. C'est comme pour mon fils, il m'est arrivé avec son père, et si nerveux, si contracté. Où aurais-je trouvé la force de lui défendre ses sorties du soir et ses séances au casino qu'incrimine cette abominable lettre? Avec lui également, je me suis tue. Mon cœur bat si fort quand je dois parler de ce qui me touche à fond. Ah, puisque je vous raconte tout, monsieur Jaffeux, si vous pouviez le confesser, dit-il, continuant la phrase que la mère trop anxieuse n'osait achever. Oui, que vous êtes bon, oui, savoir du moins s'il a joué. Elle hésitait de nouveau, et perdu de l'argent. J'essaierai, madame. Et la regardant avec cette autorité à la fois douce et ferme, dont il connaissait le magnétisme pour l'avoir exercé souvent sur des clients trop émotifs, à une condition pourtant. Vous tâcherez, vous, madame, vous, de confesser votre fille. Oui, en lui montrant la lettre anonyme. Vous me faites l'honneur de me traiter comme un ami. C'est un ami du colonel Favy et de vous-même, si vous le permettez, qui vous adjure de ne pas vous taire cette fois. Dans la vie d'une jeune fille, un premier sentiment est une chose bien grave. Si par malheur mademoiselle Renée s'était laissée troubler par ce Nérial, il faut que vous le sachiez et que vous la guérissiez. « Mais comment ? » gémit-elle. « Nous y arriverons, » affirma-t-il. Et plus autoritaire encore, « j'en fais mon affaire. Le point capital, c'est de savoir, et rien qu'à la regarder lire cette lettre, vous saurez. Mais les voici l'un et l'autre. » Une galerie vitrée contournait le hall derrière laquelle se profilaient les silhouettes de Gilbert et de René. C'est tout de suite qu'il faut lui montrer cette lettre à elle, insista Jaffeux. Tout de suite, est-ce promis ? C'est promis, répondit Madame Favy, comme redressée par la suggestion de cette volonté. Et elle ajouta : Merci, vous venez de me faire tant de bien. Un mot encore, dit Jaffeux. Vous m'avez dit hier que Gilbert et ce Nérial étaient très amis, autres camarades plutôt. Ils se connaissent depuis si peu de temps. Là encore, j'ai été faible. J'ai laissé René faire de longues promenades avec eux deux. Avant-hier, par exemple, ils étaient à J1, tous trois à bicyclette. Voulez-vous que je lui parle à lui de la lettre anonyme pour couper court d'avance à toute correspondance si, par hasard, Nérial concevait l'idée de maintenir le contact de cette manière-là ? Attendez que j'aie causé avec René, dit Madame Favy. S'il y a lieu, c'est moi qui mettrai Gilbert au courant. Il a tant de cœur. Il n'aurait qu'à se reprocher ses promenades et est si visiblement tourmenté en ce moment. Pourquoi ? Si sombre de nouveau. C'est ce qui me fait craindre des pertes au jeu. Une dette peut-être qu'il hésite à m'avouer. Donc tenons-nous-en à ce que je vous ai demandé d'abord, le sonder là-dessus. Le frère et la sœur passaient la porte à 7 minutes. L'expression de leur visage ne s'accordait que trop avec les craintes de la mère. René, pâle, les yeux battus, les prunelles si tristes. Gilbert, le front barré d'un pli, tenant au doigt une cigarette qu'il fumait fébrilement. Et tous deux marchant comme dans un rêve, sans se parler. Eh bien ? Dit Madame Favy à Jaffeux, tout bas, avec un geste de tête qui signifiait « Me suis-je trompé ?»« Raison de plus, » fit-il sur le même ton pour ne pas attendre. « Je vais causer avec Gilbert et vous montrerai la lettre à René, mais je vous répète tout de suite. » Et pour la contraindre à suivre ce sage conseil, « Ah, mademoiselle René, » dit-il à voix haute, « madame votre mère n'est pas raisonnable, elle ne se sent pas très bien, elle devrait être dans sa chambre à se reposer, ramenez-l'y donc. Et vous, Gilbert, voulez-vous que nous fassions un bout de causette dans le jardin, il fait si beau. »« Volontiers, » dit le jeune homme, qui suivit Jaffeux en allumant une autre cigarette, la physionomie absente, et, à la fois, comme l'avait dit sa mère, si tourmenté. Sortis du hall, les deux hommes firent quelques pas sans se parler. Jaffeux regardait son compagnon, hanté par une réminiscence pour lui bien émouvante. Depuis ses 48 heures, il avait trop pensé à Pierre Stéphane. 1000 détails relatifs à ce malheureux lui étaient revenus présents, et en particulier ses entretiens avec Madame Bertin, quand elle s'inquiétait de son fils et de la tentation du jeu au cercle où il avait voulu entrer. Il l'entendait, par-delà les années, prononcer les mêmes mots que Madame Favy tout à l'heure à propos de la partie du casino et de son fils. Il est si entraînable. Même phrase, même étouffement dans la voix. Il n'était pas jusqu'à la similitude entre les maladies des deux mères, qu'il acheva de lui rendre plus pathétique cette identité de leurs angoisses. Gilbert et lui marchaient donc dans le jardin, devant le salon du rez-de-chaussée où se donnaient les leçons de danse. Le bruit d'un phonographe qui jouait un air de Boston les fit se retourner. Ils purent voir, à travers la porte-fenêtre, Mademoiselle Morange qui entraînait une autre jeune fille, toujours de ce pas allongé, souple, un peu hésitant, ralenti encore par le rythme monotone de l'instrument. C'était l'occasion pour Jaffeux d'engager la conversation avec celui qu'il avait promis de confesser, et d'abord sur ses relations avec Pierre Stéphane. Son expérience d'avocat, initié à tant de drames intimes, lui faisait considérer le danger couru par René comme autrement redoutable pour elle que ne pouvait l'être pour le jeune homme une mauvaise passe au baccarat. Jusqu'à quel point le beau danseur, ainsi que l'appelait ironiquement la lettre anonyme, s'était-il servi de son intimité avec le frère pour s'insinuer dans celle de la sœur? Et il interrogeait, en désignant de la pointe de sa canne, cette porte-fenêtre et le groupe mouvant des deux femmes. « Il me semble reconnaître la personne qui figurait avant-hier dans le numéro du printemps. » Puis sans attendre la réponse, « le directeur m'a dit que le danseur est souffrant et qu'il a quitté l'hôtel. Il s'appelle Nerial, n'est-ce pas ?» Il répéta, « Nerial, Nerial, ce n'est pas un nom. Vous ne le trouvez pas ?» Il l'a pris pour ne pas donner le vrai, répliqua Gilbert, un peu étonné de cette insistance. C'est tout naturel s'il est d'une bonne famille. Oh, je ne vous demande pas laquelle. C'est sans doute un secret qu'elle vous a confié. Non, c'est une simple hypothèse de ma part, rectifia Gilbert. D'après ses manières et ses idées, non, il ne m'a fait aucune confidence. Oh, vous étiez pourtant très amis, m'a dit madame votre mère. Ce fut au tour de Jaffeux de s'étonner devant la vivacité avec laquelle le jeune homme répondit. « Oh oui, j'espère bien que nous le resterons. C'est un des plus nobles cœurs que j'ai rencontrés, si généreux, si délicat. Oui, votre mère et votre sœur m'ont dit également qu'il paraissait avoir une excellente éducation. Vous ne soupçonnez pas quels motifs lui ont fait choisir cette carrière, à tout le moins paradoxale, et qu'il n'en est pas une. » J'ai cru comprendre qu'il était resté orphelin, très jeune, et ainsi que son père était mort, ruiné. Il était adroit, il aimait les sports, il n'avait pas encore de métier, alors celui-là s'est offert, il l'a pris. Comme il a eu raison, continua-t-il. Et d'une voix où frémissait une révolte intime contre cette rigueur de la discipline paternelle, dont avait parlé Madame Favy. Oh, nous en avons causé de ce métier, je conçois qu'il en soit charmé. Pensez donc, jamais de corvées officielles. L'hiver ici, dans un pays de soleil, l'été dans les Alpes, aucun souci, aucun esclavage matériel, tout le confort que les milliardaires viennent chercher dans les palaces. Je vous disais qu'il aime le sport, mais les danses d'aujourd'hui en sont un. Et si originales, si variées. Leurs figures sont innombrables, les professionnels, lui par exemple, en inventent tous les jours. Et c'est la rencontre sans cesse de femmes nouvelles, plus élégantes les unes que les autres. Oh, Nerial est trop discret, je vous le disais aussi, trop chevaleresque pour raconter ses bonnes fortunes. Mais qu'il en ait eu, et de nombreuses, de délicieuses, j'en suis sûr, rien qu'à constater son prestige sur les voyageuses de cet hôtel. Toutes veulent danser avec lui. Calculez maintenant l'argent que lui rapportent ses leçons, les avantages que sa situation implique, logé, blanchi, nourri, servi, ses frais de déplacement payés. Avouez-le, cette position paradoxale est plus brillante et plus raisonnable que ne sera la mienne quand, après m'être éreinté à passer des examens imbéciles, Je serai chargé d'affaires dans le Honduras ou le Nicaragua. Savez-vous, mon cher Gilbert, que cette amitié ne me paraît pas avoir une très bonne influence sur vous? Repartis-je à feu. Et à part lui, comme ce dangereux Pierre Stéphane a eu l'art de s'emparer de lui pour se rapprocher de sa sœur, c'est évident. Et ce frère qui parle des bonnes fortunes de l'autre. C'est trop évident aussi qu'entre cet inconscient et un roué, la partie n'était pas égale. Ce naïf n'a rien deviné, rien soupçonné. Le questionner sur leur promenade à trois est inutile. Bon, tâtons-le sur le jeu, puisque la mer s'en tourmente. Et tout haut maintenant. C'est trop naturel d'ailleurs que vous vous soyez beaucoup lié avec lui. Vous n'avez guère de distraction ici. J'ai vu pourtant l'affiche d'un casino. Vous y allez un peu? Gilbert Favy lança sur le curieux un regard non plus d'étonnement mais de défiance, tandis qu'il répondait avec une indifférence affectée: Oui, de temps en temps. Et l'on y donne de bonnes pièces? Oh non, je n'ai pas suivi le spectacle. Et la partie? Oh, dans tous les casinos, il y a une partie de petits chevaux ou de baccarat, surtout de baccarat. La rougeur était montée au visage du jeune homme, et la voix saccadée, les yeux dans les yeux de son interlocuteur, cette fois. C'est maman qui vous a demandé de me sonder, j'en suis sûr, hein, de savoir si je joue. Eh bien oui, répondit nettement Jaffeux. Son habitude des difficiles enquêtes auprès de plaideurs réticents lui faisait deviner à cet accent et à cette physionomie les indices d'une crise de sincérité. Elle aurait bien pu me parler elle-même, disait Gay Gilbert. Mais non, les médecins veulent qu'on lui évite toutes les émotions, même les plus légères. J'aurais dû lui mentir, je mens si mal. Elle aurait soupçonné le pire. À vous, monsieur Jaffeux, je puis dire ce que je ne lui dirai pas. Ce qu'il ne faut pas qu'elle sache à aucun bruit, vous m'entendez? Oui, j'ai joué et j'ai perdu. Beaucoup? Demanda Jaffeux. Oh, pour moi, oui, beaucoup. Mais c'est réglé, j'ai trouvé le moyen, et à la personne qui m'a aidé, j'ai donné ma parole d'honneur que je ne jouerai plus jamais. Je la tiendrai, cette parole. Voilà ce qu'il faut que vous disiez à maman, que vous m'avez parlé du jeu et que je vous ai répondu que j'avais les cartes en horreur. Et pour la troisième fois, secouant sa tête d'un pli de dégoût aux lèvres, il répéta: en horreur. Ces mots énigmatiques, la personne qui m'a aidé, le joueur les avait prononcés avec la même émotion, la même voix attendrie que tout à l'heure la phrase sur Nerial, le plus noble cœur, si généreux, si délicat. Cette identité d'intonation avait provoqué soudain chez l'observateur perspicace qu'était Jaffeux une première idée. Cette personne qui avait aidé le frère de René, si c'était Pierre Stéphane, pour s'assurer un allié auprès de la jeune fille. Une autre idée avait surgi, non moins quand Gilbert avait jeté cette exclamation: J'ai les cartes en horreur. Soudaine, une voix plus émue encore, où passait comme le frisson d'un remords. Par quelle inconsciente et immédiat dévidage de sa pensée, Jaffeux se rappelait-il l'inspecteur lui disant à propos de ce même Pietre Stéphane: J'ai eu l'impression qu'il se dévouait pour quelqu'un d'autre et qu'il en était fier. Une hypothèse venait de lui apparaître qu'il rejeta aussitôt. Gilbert Favy, perdant au jeu cette grosse somme d'argent, il l'avouait, et pour s'acquitter, volant un bijou, cette barrette de Gerdy Hadram, comme jadis Pierre Stéphane les volumes. Celui-ci l'apprenant, avançant l'argent aux malheureux, se faisant donner le bijou volé, le restituant à la police et s'accusant lui-même pour couper court à toute recherche qui pût découvrir le coupable. Enfin, une de ces constructions imaginatives dressées dans l'esprit avec l'instantanéité d'une vision de rêve. Ce sont souvent les plus exactes. Elles ont la lucidité divinatrice de l'intuition. Bon, quel roman vais-je inventer là? Se dit l'avocat devant les illogismes apparents d'une pareille aventure. Et d'abord, Gilbert, s'il avait volé, prenant pour confident de sa honte ce demi-inconnu, qu'était pour lui le danseur mondain? Et puis cette personne qui l'avait aidé pouvait si bien être une de ses amies du colonel dont René a parlé. Alors, à tout hasard, il insinua « je crois bien avoir deviné à qui vous avez emprunté cet argent. Ce quelqu'un qui voulait avancer en exigeant votre parole de ne plus recommencer, ce n'est pas un officier du Mont des Oiseaux ?»« Oh, ne cherchez point, » répondit Gilbert, « vous ne trouveriez pas. En tout cas, vous devez être à jamais reconnaissant à ce bienfaiteur, » reprit Jaffeux, en mettant sa vieille main sur l'épaule du jeune homme. Pas seulement de cet argent prêté, mais surtout de cette parole demandée. Bien entendu, je ne raconterai à vous, madame, votre mère, que la partie de notre conversation que vous m'autorisez à lui dire. Ce dont je suis content, plus que content, heureux, comme son ami et l'ami de votre admirable père, c'est de cet engagement d'honneur et aussi du sentiment que vous éprouvez pour le jeu. Que j'en ai vu dans mon existence d'avocat, de destinée manquée à cause de cette fatale passion qui finit par tout abolir dans la vie morale. J'ai vu des fils de famille chassés d'un cercle pour avoir donné au caissier des chèques sans provision. J'ai vu des garçons d'un beau nom surpris en train de tricher à une table de baccarat. D'autres forçant le tiroir de leur père pour aller au tripot et laissant accuser des domestiques, d'autres volant les bijoux de leur mère ou de leur sœur. Oh, quelle pitié! En prononçant ce réquisitoire contre la passion du jeu, le digne homme cédait à l'automatisme du mouvement oratoire, une des caractéristiques de son métier. Et il n'observait plus avec une attention aussi aiguë le masque volontairement impassible de celui qui l'écoutait. S'il l'avait vu tressaillir, malgré lui, à ces simples mots, volant des bijoux, le soupçon de tout à l'heure serait sans doute revenu avec trop de raison. Il n'en retint devant cette attitude de défiance qu'une seule hypothèse. Comme il a été gêné, songeait-il, Gilbert Faville ayant quitté pour passer dans le hall sous le prétexte d'une lettre à écrire, aussitôt que je l'ai questionné sur la personne qui l'a aidé. Serait-ce vraiment Pierre Stéphane? Cette lettre anonyme, ne serait-ce pas Pierre Stéphane encore qui l'a écrite pour forcer la jeune fille à déclarer son sentiment à Madame Faville? Tout cela se tient. Cet argent prêté aux frères pour qu'il plaide pour lui auprès du père, pendant que cette pauvre petite Renée suppliera sa mère, qui est si faible. Allez, bon, voilà que je construis un autre roman. Je suis ici, Pierre Stéphane le sait, et qu'une parole de moi le perdrait à jamais dans le cœur de cet enfant. Cette parole, il sait que je la dirai certainement dans un cas pareil. Donc il ne peut plus raisonner comme je viens de l'imaginer. Mais avant, oh, que toute cette intrigue est donc obscure! Attachons-nous aux petits faits positifs. Voici le premier, cet absurde garçon paraît, pour le moment, guéri du jeu. Le second, Madame Favy et sa fille ont une explication décisive. S'il en sort que René s'est laissé prendre au machiavélisme de ce scélérat, car décidément c'en est un, j'entre en scène. Tandis que l'avocat, toujours soupçonneux par profession, imaginait ainsi, derrière ce lâche anonymat d'une lettre sans signature, une ténébreuse et savante rouerie, la jeune fille qui en était la victime dénonçait sans hésiter la main qui avait tapé ses lignes perfides et le sentiment qui les inspirait. Quand, remontée dans leur appartement, elle et sa mère, celle-ci lui eut tendu l'infâme papier. « Oh, c'est Mademoiselle Morange !» dit-elle aussitôt. Elle a depuis 3 semaines une petite machine à écrire. Elle s'en sert pour les programmes des fêtes où elle doit danser. Je reconnais les caractères et sa maladresse. Ses doigts eurent pour jeter la feuille et son enveloppe sur une table le geste de dégoût qu'elle aurait eu vis-à-vis d'une bête visqueuse, et avec un frémissement sourire de mépris. C'est aussi stupide qu'ignoble. Mais pourquoi, Mademoiselle Morange, aurait-elle quelque chose contre toi ? Demanda Madame Favy. Mais parce que c'est une envieuse, maman. Il n'y a qu'à la regarder. Envieuse ou jalouse ? Et comme René rougissait, ne répondait pas. « Oui, » insista la mère, jalouse à cause de M. Nerial. « Cette lettre le dit, avoue que tu le penses. » Nouveau silence, et Mme Favy continua. « Pour peu que cette jalousie existe, il faut que tu aies été plus familière avec cet homme que tu n'aurais dû. Mais vous avez assisté à toutes mes leçons de danse, maman, vous avez vu... je n'ai pas assisté à vos promenades à bicyclette. Ton frère était entière, c'est vrai. Maman, je vous assure que je ne me suis jamais comporté avec M. Nerial en votre absence, autrement que devant vous. » La tendre enfant était toute blanche maintenant. Elle dut s'asseoir, tant cette conversation la bouleversait. « Alors, insista la mère, la lettre ment. Vous n'avez jamais eu, monsieur Nerial et toi, de conversation en tête-à-tête dans le jardin, comme elle t'en accuse. » René eut un saisissement d'une seconde, puis relevant la tête et d'un accent de décision. « Si, maman, j'ai eu avec monsieur Nerial une conversation en tête-à-tête, une seule. » Ce matin, vous vous étiez donné rendez-vous ? Non, maman. Vous vous rappelez que vous m'aviez vous-même conseillé de sortir et de prendre un peu d'air parce que vous me trouviez une petite mine. J'ai rencontré M. Nerial dans l'allée qui descend. Il m'a abordé. Était-il là dans l'idée de m'attendre ? Je ne le crois pas. C'est possible, mais je n'en sais rien. Vous avez causé longtemps ? Ou 10 minutes, Mademoiselle Morange nous aura vus. Et tu m'as caché ce tête-à-tête. Et de quoi avez-vous donc parlé ? Je savais que vous me poseriez cette question, maman, et qu'il me serait pénible de vous répondre. Pourquoi, mon enfant ? Parce qu'il m'a parlé de mon frère. De ton frère ? Oui, maman, et ce qu'il m'a dit, je ne voulais vous le répéter que si je n'arrivais pas à préserver Gilbert toute seule. J'avais trop peur de vous inquiéter. Mais du moment que cette abominable lettre vous dénonce aussi, je veux parler. Ce qu'il m'a dit, il m'a dit que Gilbert avait joué au casino et que je devais, s'il y retournait, essayer de l'accompagner et surtout insister auprès de lui pour qu'il ne touche plus une carte. Vous comprenez mon silence à présent ? Mais je veux que vous sachiez encore que Monsieur Nerial, pour la première fois, m'a fait plus qu'une allusion, une confidence sur sa vie. Si j'ai été réduit à prendre ce métier de danseur mondain, le jeu, m'a-t-il avoué, en est un peu la cause. On se corrige de ce vice, puisque je m'en suis corrigé. Il faut que votre frère s'en corrige, aidez-le. Oh, je vous assure, maman, que vous auriez été touchée au cœur, comme moi, si vous l'aviez entendu. Il a une telle élévation dans la pensée, une telle finesse dans les sentiments. Ça doit lui être si dur de vivre sur un pied d'égalité avec des créatures comme cette mademoiselle Morange. Elle montrait de nouveau la lettre. Enfin, maman, j'espère que ne vous en verra plus de ces vilains nids, puisque Monsieur Nerial s'en va. Nous nous sommes dit adieu. Sa voix s'étouffait pour prononcer cette dernière phrase. Madame Favy, assise auprès d'elle, lui prit les mains, et tout bas elle-même. René, dit-elle, est-ce que tu l'aimerais? Oh, maman, fit la jeune fille en laissant retomber sa tête sur l'épaule de sa mère, je n'en sais rien, ne me demandez rien, j'ai trop mal, trop mal. Elle se mit à pleurer, tandis que la mère, bouleversée de ce qu'elle entrevoyait dans cette sensibilité pareille à la sienne, gémissait. Ma pauvre petite, et moi qui n'ai pas vu venir tout ça. Moi qui n'ai rien compris. C'est seulement quand tu as été si triste ces jours derniers que je me suis dit, elle ne s'est pourtant pas laissée faire la cour par quelqu'un qu'elle ne peut pas épouser. Car cet homme, tu ne peux pas l'épouser, d'abord, jamais ton père. Oh, je le sais que trop, interrompit René en se redressant et secouant la tête. C'est pourtant pas juste. Dans le mariage tel que je le rêve, c'est l'homme que l'on épouse et non pas une position. Mais oui, je le sais que mon père ne consentirait jamais. Et moi, je ne me marierai jamais contre sa volonté. Oh, maman, que je suis malheureuse. Mais qu'avez-vous? Qu'avez-vous? Le visage de Madame Favy était subitement devenu d'une lividité cireuse. Ses traits se décomposaient. Son souffle se faisait court, ses doigts se glaçaient. Elle les dégagea de ceux de sa fille pour les poser sur son sein gauche et se penchant en arrière. Oh, rien, rien, c'est une petite crise. Laisse-moi m'étendre. Déjà, René avait sonné et à la fenêtre, femme de chambre qui entrait. Aidez-moi à mieux coucher, madame, sur le canapé, ordonnait-elle. Vite un mouchoir, Jeanne, et le nitrite d'amnil. Pauvre madame, disait la femme de chambre. Sa dextérité à prendre dans une boîte ad hoc l'ampoule de verre et à la briser témoignait trop de la menace toujours suspendue sur la malade. Et elle répétait, pendant que René faisait respirer à celle-ci le mouchoir imbibé du bienfaisant médicament, pauvre madame. Elle paraissait tellement mieux. Elle n'a rien ici qui la contrarie. Elle mène une vie si tranquille. Oh, je vais téléphoner pour le médecin. Non, 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 dit Madame Favy en esquissant un geste. Non, 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 ce n'était vraiment rien. Non, voilà que ça passe. Oh, ce sera le mistral d'hier, fit encore la femme de chambre. Madame ne doit pas sortir avec celui d'aujourd'hui. Le vent qui grondait depuis le matin enveloppait en effet l'hôtel de son immense rumeur. Oui, maman, insistait René, il faut que vous restiez étendue et enfermée. Et la femme de chambre à peine sortie. Pardon, maman, c'est moi qui vous ai donné cette crise. Oh, pardon. Pardon. Quand Jeanne a dit, elle n'a rien qui la contrarie, J'ai reçu un coup. J'aurais dû me taire, vous mentir, mais je ne peux pas. Mais non, répondit la mère avec un sourire encore souffrant. Il m'est très doux de te sentir si vraie avec moi, si confiante. Puis, de nouveau assombrie, ah, si seulement ton frère était comme toi. Non, mais pourquoi suis-je allé vous répéter cette phrase sur ces séances au casino? Ne te fais pas de reproches, mon enfant. Tu ne m'as rien appris. La preuve. J'ai prié M. Jaffeux de questionner Gilbert, d'essayer de savoir s'il avait joué ces derniers jours et perdu de l'argent. C'est très délicat, mais M. Jaffeux est si fin. Il ne l'a emmené dans le jardin que pour ce motif. Il doit me rendre compte de leur conversation. Comme je voudrais qu'il fût déjà ici. Oh, j'irai bien le chercher, maman, mais ne vaut-il pas mieux attendre que vous soyez tout à fait remise? Attendre, dit la malade, toujours attendre. Avec le pauvre cœur que j'ai, c'est cela qui m'use. Bon, eh bien, maman, je vais le chercher. Bon, tu le trouveras certainement dans la partie du jardin qui touche à l'hôtel, précisa Madame Favy. Sachant que je veux lui parler, il doit m'attendre là, pour éviter de marcher.